d'avoir nos services, et ça va nous faire plaisir de répondre à cette question-là. Donc, si vous êtes nouveau, on vous invite à la fin de la réunion à notre zone de bienvenue. Ce matin, la semaine dernière, on avait comme invité le pasteur Daniel Descaries, et la semaine prochaine, nous débutons une nouvelle série. Donc là, on se retrouve entre deux, c'est rare que ça se produise, mais ce matin, on est entre deux, donc je vais apporter un message seulement pour ce matin. C'est ça qui est ça. Et le titre de mon message est « J'ai ». Nous autres, puis on prend un petit moment relax, parce que là, on recommence. Parce qu'en fait, c'était la rentrée scolaire cette semaine. On va être honnête, c'est pas la vraie rentrée scolaire. Les deux premières journées, c'est une journée d'accueil, de fête, on met nos cartables dans notre bureau, on fait pas, c'est pas la grosse affaire. La vraie rentrée, c'est mardi. Là, les vraies affaires commencent. Mais souvent, quand on est en vacances, on a tout ce moment-là. Je sais pas où vous êtes allé ou qu'est-ce qui vous fait du bien. Peut-être que vous êtes allé vous asseoir sur le bord du fleuve, le bruit des vagues, ça vous fait du bien. Que vous êtes allé pêcher sur un lac ou peut-être juste un feu de camp le soir. Peu importe qu'est-ce qui vous fait du bien, mais il y a tout ce moment-là où on est en vacances et quand on est en vacances, à ce moment-là, c'est comme si plus rien n'existe. Il n'y a plus de facture. Pas d'épicerie à faire. Il n'y a rien. On n'est pas obligé de passer à la tondeuse. Peut-être pas pour vous un problème, ça l'est pour moi. Et il n'y a aucun souci. Il y a pas, le travail est loin, les enfants ne sont pas à l'école, il n'y a pas d'horaire fixe. Puis là, on est ce moment-là du bien. On est juste en paix. Mais avez-vous remarqué à quel point ce moment-là peut passer d'un moment intense de paix et de tranquillité et de juste de bien-être, dans un claquement de doigts, on vient submerger. C'est fou comment on peut revenir de vacances et dire « Ok, ah oui, là, je suis en forme, je suis reposé, là, je vais tout reprendre, les activités. » Mais là, c'est la folie, tout reprend, on arrive au travail, il y a des trucs qui se sont passés qu'on n'avait pas pensé, puis là, il faut régler ci, il faut régler ça. Vite, les enfants, l'école, les fournitures, les lunchs qui recommencent, les lifts, le trafic, Et là, on est dans ce moment-là, et là, c'est comme s'il y a une vague qui arrive puis qui nous submerge dans l'espace d'une fraction de seconde, puis on dit « Là, on est en panique. » Peut-être que ça ne vous arrive pas, ça m'arrive. Il se met en panique. Mais ce qui est intéressant, on va lire dans le texte de 2 Corinthiens 4, des versets 7 à 10, c'est l'apôtre Paul. Il va dire, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours à nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la soit aussi manifesté dans notre corps. Wow! Vous savez, souvent c'est assez étonnant, dans le top 5 des personnes que, tu sais, là, tu rencontres des croyants, tu dis, hey, qui t'aurais voulu être, ou avec qui t'aurais voulu être dans la Bible? Et un des noms qui ressort le plus souvent, c'est l'apôtre Paul. Parce qu'on voit l'apôtre Paul comme un conquérant de la foi, l'homme invincible, l'homme qui a une foi sans limite, qui a un courage, qui a de l'audace, qui implante des églises et qui prêche la bonne nouvelle. On dit, hey, moi, là, ça, c'est un vrai héros de la foi. Et souvent, on s'arrête. Et c'est vrai, tout ça. Mais et des fois, on en super héros. On ben juste qu'on leur rajoute pas une cape et un masque, puis on se dit, c'est un héros. Mais c'est étonnant à quel point, dans ce texte-là et d'autres textes, mais dans ce texte-là particulièrement, l'apôtre Paul s'adresse pas aux Corinthiens en disant « vous ». Parce qu'il y a beaucoup de textes, entre autres dans les Corinthiens, ils vont dire, ils vont reprendre l'église de Corinthe, parce qu'il y a justement, il y a du désordre, c'est le chaos total, puis il va dire, c'est pas, voici comment vous agissez mal. Il va parler en « vous ». Mais dans ce passage-là, il dit « nous ». Et il va dire, on porte ce trésor, le trésor de la grâce de Dieu dans nos vies, c'est dans un vase de terre. Quand on arrive au printemps, puis on veut planter des fleurs, on s'en va au Canac, whatever, puis on arrive là, puis aujourd'hui, la majeure partie des pots, hein, c'est des pots en plastique. Mais si j'échappe le pot, je ne fais pas comme, « Ah non, j'ai échappé mon pot, il n'y a pas de problème, il se défera pas, il se brise, ça va prendre beaucoup de choses pour qu'il se brise. » Mais ici, l'apôtre Paul dit, on porte ça pas dans des vases de plastique, pas dans des vases de titane, pas dans des vases de béton, mais il dit, notre vie est fragile. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, ma vie est fragile. On porte ça dans un vase de terre, d'argile. Et s'il tombe, il se casse, c'est peut-être terminé. Et c'est étonnant qu'il poursuit en disant, Nous sommes. Ici, l'apôtre Paul se met dans l'eau, il dit pas vous, Corinthiens, mais nous, je m'associe à vous. Nous sommes. Il dit, moi, ma vie à moi, je suis pressé de toutes parts. Mais il dit, je suis pas écrasé. Il dit, on est inquiet, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. Je sais pas pour vous, mais ces mots-là, comme inquiet, comme pressé, comme persécuté, comme abattu, ça m'arrive. Pas tout en même temps, on espère, mais ça m'arrive. Et ça nous arrive tous. Et c'est là où la vague vient pour nous submerger. Mais en fait, l'apôtre Paul dit, cette vague-là arrive. Puis on a toutes ces inquiétudes-là, on vit tout cet abattement-là, on vit toutes les pressions de toutes parts. Mais on n'est pas anéanti, on n'est pas écrasé, on n'est pas abattu. Pourquoi? Parce que la semence qui est à l'intérieur du vase de terre, c'est Jésus. C'est ce qu'il dit. Et Jésus ne te laisse pas. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus, la vague arrive. Et même quand il y a ce moment-là de panique et d'inquiétude et de pression, mais l'œuvre de Jésus à la croix est encore présente dans ta vie. Et c'est ça qui fait en sorte que la vague ne peut pas t'anéantir. Owen McGuinness a dit, il y a plus de courage à l'intérieur de nous que de danger en face de nous. Tu es assez fort pour les combats qui s'en viennent. Il y a plus de force à l'intérieur de nous. Et souvent, ce qu'on voit, c'est la vague qui s'en vient, puis on dit, je ne serai pas capable de faire face à cette vague-là. Mais la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça que la Bible déclare. On va lire cette histoire-là dans 1 Samuel, l'histoire de 1 Samuel 13, à compter du verset 8. Ça dit, Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans les délais fixés et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Saül agit un peu comme nous, souvent. Quand on s'en submerge, pressé de toutes parts, qu'est-ce qu'on fait? On panique, puis on veut régler la situation maintenant. On prend les rênes. Il y a tout ce moment-là où on a dit à Dieu, quand ça allait bien, « Seigneur, je prie que tu diriges mes pas par ton esprit. Je prie, Seigneur, que tu sois avec moi, que ta volonté soit faite, que tu me prennes. Ma vie, Seigneur, est dans le creux de ta main. Je te fais confiance. Je te fais confiance jusqu'à temps que la vague arrive. » C'est pas mal ça qui se passe. Et si c'est ça qui est arrivé, Samuel, il avait un ordre. Voici, c'est moi, tu peux pas, tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorisation de faire le sacrifice. C'est moi qui ai été ordonné par Dieu de faire le sacrifice. Donc, tu vas attendre, puis quand je vais faire le sacrifice, après, on va pouvoir partir en guerre, on va savoir que Dieu est avec nous. Et là, dans ce moment-là, Samuel n'est pas arrivé, Saül est là, il voit les Philistins arriver, et là, il voit le peuple qui se disperse, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il panique, il voit la vague, puis il se sent submergé, puis là, il dit, non, ça va finir là, on va tous mourir. Puis là, il est dans un moment de panique, puis il dit, OK, just too bad, je fais le sacrifice moi-même, on va implorer l'Éternel, on va aller se battre, puis ça va bien aller. Et au moment où il fait ça, tu n'as pas écouté ce que Dieu t'avait dit. Tu t'es dépêché d'agir par toi-même. Il dit, à cause de ça, il dit, si tu avais seulement attendu que Dieu vienne, que j'arrive pour faire le sacrifice, Dieu aurait affermi toute ta royauté pour toujours. À ce moment-là, ça veut quoi? Saül a 30 ans. Une petite jeunesse. Il était prêt pour des années. Probablement, la Bible nous dit que c'était un des meilleurs, probablement le meilleur soldat de toute l'armée. Les gens le respectaient, le reconnaissaient. Il avait tout pour faire, pour être un bon leader. Et il arrive à ce moment-là, puis il défait tout ce que Dieu a voulu bâtir dans sa vie. Puis il dit maintenant, Samuel lui dit, il dit, sais-tu quoi? Il dit, à cause établir ta royauté et a déjà choisi quelqu'un selon son cœur. On sait que c'est David. Imaginez, déjà là. Et le reste de la vie de Saül, c'est une perpétuation d'événements comme celui-là. D'événements où Saül décide par lui-même de faire des choix et attend pas après Dieu, écoute pas ce que Samuel lui dit, écoute pas ce que... Non, je fais à ma tête. C'est ça, c'est sa vie, c'est totalement ça. Et tout le potentiel et tout le, ce que Saül avait, Dieu lui avait donné, ce qu'il aurait pu faire, les habiletés que Dieu lui avait données, il aurait été probablement un roi exceptionnel qui aurait dirigé son peuple, qui aurait... Et le contraire est arrivé. Pourquoi? Parce que dans un moment de panique, dans un moment de submersion, il a décidé d'agir par lui-même. Et ça, toute sa vie, il a décidé d'agir par lui-même, de faire fi. Une journée, il dit, « Ah oui, Seigneur, viens dans ma vie, je te fais confiance. » Le lendemain, il arrive, « Oh non, je vais régler ça par moi-même. » Et combien de fois, quand le moment arrive, quand la vague arrive, c'est comme si on ne se souvient plus qu'on a déjà dit à Dieu qu'on lui faisait confiance, puis c'est rapide, c'est maintenant, il faut le faire. Margaret Fenberg a dit, « Fais attention où tu investis ton temps et ton énergie. » Parce que malheureusement, une des choses qu'on fait, quand on agit sous l'effet de la panique et de l'impulsion, qu'est-ce qu'on fait? On ne pense pas à demain. On ne pense pas aux conséquences à demain. On n'investit pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre un plaster sur un cancer. Sur une graphine de chat, un plaster, c'est numéro un. Ça fait la job. Et quand tu as un membre arraché, quand tu as beau mettre 4 plasters, ça ne fera pas la job. Mais souvent, ce qu'on fait dans nos vies, c'est qu'on sort le plaster et qu'on essaie de juste fixer les trucs rapidement. On essaie de faire la job de Dieu. Puis quand on dit, hey, oui, Seigneur, je te fais confiance, oui, mais... Et vous savez, c'est assez saisissant du fait que Saül dit, c'est maintenant, c'est assez, j'ai assez attendu. Mais pendant que le fait, parce qu'il dit, ah, oh, il dit, c'est comme si Samuel tarde à venir. Est-ce que Samuel ne s'est jamais pointé qu'il est arrivé 4 jours plus tard? Et... Non. Et des fois, on fait la même chose. On intervient de notre façon, parce que là, OK, je prends ça en main, parce que Dieu n'était pas intervenu. Il n'est pas arrivé, tu es en retard. Et des fois, on pense que Dieu est en retard, comme Saül pensait que Samuel est en retard. Il dit, ah, il arrivera, ah, faut le faire. Et c'est ça qu'on fait. Et malheureusement, quand on agit comme ça, il y a bien des fois où on brise des choses. On casse quelque chose. On fait une gaffe. Si seulement, ça vous est juste arrivé de dire, si j'avais attendu. Ouais? J'ai pas honte de ça. Ça m'arrive souvent de dire, si j'avais attendu. Si j'avais attendu. Et des fois, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous presse tellement. On dit, il faut agir, et c'est plus fort que nous, puis on veut, puis on, ça m'arrive tellement de dire, OK, là, il faut vite, go, il faut trouver une solution. Et des fois, si seulement j'attendais de voir qu'est-ce que Dieu va faire. On va lire l'opposé de Saül. Dans Marc 10, ça dit, ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, fils aveugle de Timée, rien à voir avec la petite vie, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'est Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mon maître lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Juste imaginez lui, sa submersion. C'est toute sa vie. À la base, il n'y a rien de drôle à être aveugle. Il n'y a pas personne qui souhaite ça à personne, il n'y a pas personne qui veut se retrouver dans cette situation-là. Mais imaginez à l'époque, il n'y a pas de service. Aujourd'hui, on a un minimum, il y a de l'air, il y a des services, mais il n'y a pas de service. Cet homme-là était abandonné, laissé à lui-même probablement. Pendant toute sa vie, il a mendié, puis il a essayé dépêtrée, puis sa vie était une urgence perpétuelle, sa vie était une submersion perpétuelle. Jusqu'au jour où il entend parler de Jésus. Imaginez juste un instant, tu es assis sur le bord du chemin, tu entends, il y a une foule qui est autour de toi, tu n'es pas capable de rien voir. Est-ce qu'il est à 50 pieds, est-ce qu'il est à 10 pieds, est-ce qu'il est en face de moi? Je n'ai aucune idée, il est où Jésus? Vrai? Mais à ce moment-là, Bartimée dit, l'énergie du désespoir, il faut que je prenne la meilleure décision de ma vie. Il a décidé de crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il a tellement crié fort qu'il y a des gens qui ont dit, « Hé, attends une minute, Jésus, il t'appelle. » Et Jésus, il dit, « OK, allez le chercher, amenez-le-moi. » Probablement que Jésus n'était pas proche, mais il a tellement crié fort que c'est venu jusqu'à Jésus. Étonnamment, Jésus va faire ceci. Quand l'aveugle arrive, il va dire, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Hein? Sérieux? Voir si Jésus ne le sait pas, puis voir si même moi je ne le savais pas. Et que je recouvre la vue. Il y a Mme Ridley Burton qui dit, « Jésus quotidiennement posait des questions aux gens afin de les aider à être au fait de leurs désirs et de les nommer en sa présence. Il apportait clarté et précision dans son interaction avec ceux qui avaient faim spirituellement en leur demandant, « Que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et une des choses étonnantes, comme avec Bartimée, c'est que ce que Jésus faisait, c'est justement, quand il rencontrait des gens, il leur posait cette question-là, « Qu'est-ce que tu veux, au juste? » « T'es malade? Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Pourquoi? Parce que Jésus, dans ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on vit dans un tourbillon, puis une inquiétude, puis un empressement, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on arrive dans tous ces moments-là et veut amener de la clarté dans nos vies. Pour quelque chose de plus loin que maintenant, que juste le plasteur. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce, dans ta bucket list, là, priorité numéro un, qu'est-ce que tu veux? Il veut que Jésus veut qu'on lui dise, qu'on prenne le temps de réaliser qu'est-ce que je veux vraiment. Et qu'on le confesse. Seigneur, voici ce que je te demande. Voici ce que je veux. C'est ça que je veux vraiment. Bartimée a répondu à la question de Jésus. Bartimée, dans la submersion, a fait appel à Jésus. Et on vit dans un monde où, c'est drôle, où on agit, mais on ne pense pas tout de suite aux conséquences. Vrai? On vit dans un monde aujourd'hui où, justement, on prend les décisions sans avoir une idée globale des choses. On vit dans un monde où, génération où il y a dans toute l'humanité qu'aujourd'hui, mais avec tout ce qu'on a fait, on réalise aujourd'hui qu'on n'a pas toutes pris les bonnes décisions. Parce que ça nous coûte quelque chose aujourd'hui. Ça nous coûte quelque chose qui est irréversible. On peut faire des gestes, on peut poser des actions qui vont ralentir, mais qui n'élimineront pas. Ah, mais quand on a posé des gestes, on a fait comme maintenant, oui, c'est ça que ça prend pour répondre à cette situation-là. C'est ça qu'on a fait. Mais on ne pensait pas plus loin. Et souvent, c'est étonnant, il y a des gens qui viennent nous voir et disent, ah oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait pas. Mais rarement, on se pose la question, qu'est-ce que ça va produire à long terme? Parce que là, on est dans l'urgence, on voit la vague, ouais, voici qu'est-ce qu'on va faire ça, on fait ça, voici, on fixe le truc. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment le bon choix maintenant de faire ça? Et quel impact que ça va avoir sur le futur? De ma vie, de nos vies? Je suis un couple de trucs, dont la NASA, CNN, des trucs sur les médias sociaux. Et je suis arrivé là-dessus il y a quelques semaines, si on peut mettre l'image. Et là, c'est tout récemment, le mois dernier, pris en mois d'août 2019, où il n'y a plus rien. Et il montrait ces deux photos-là parce qu'il y a des gens, il y a un groupe de personnes en Islande qui se sont rendus sur le site de ce glacier-là. Et pour faire une commémoration, mais ils ont fait une plaque, la plaque suivante, qu'ils ont installée sur un rocher qui est là. Et la plaque dit ceci, dit... Aujourd'hui, ce glacier-là, du nom de... le glacier avait un nom. Il dit, c'est le premier glacier en Islande à être éteint, l'extinction n'existe plus. Il ne porte plus le titre de glacier, tellement c'est des grenouilles. C'est terminé. Mais il dit, d'ici, nos prédictions, c'est que d'ici 200 ans, il n'y aura plus aucun glacier en Islande. Il dit, aujourd'hui, on pose cette plaque-là pour que les générations futures, quand ils vont lire ça, juste pour témoigner de savoir est-ce qu'on a pris les bonnes décisions aujourd'hui et qu'est-ce qui va s'être passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris la bonne décision? Seulement vous allez le savoir. Seulement les générations futures vont être capables de témoigner, oui, la génération actuelle a pris les bonnes décisions. Et c'est exactement la même chose pour nous. Si je ne fais pas de pitch environnementaliste ou quoi que ce soit, je ne suis pas dans une association, mais ça m'a tellement saisi de dire que c'est le reflet de l'humanité. C'est le reflet de l'être humain de rapidement prendre une décision sans penser aux conséquences futures. Et ça, c'est pour globalement pour la Terre, mais c'est dans nos vies personnelles. C'est ça qu'on fait. On agit comme Saül. Maintenant, on va faire ça, ça devrait être correct. Mais Saül n'a jamais eu en tête que si je fais, qu'est-ce qui va, il s'est jamais posé la question, si je pose ce geste-là, qu'est-ce qui peut arriver? Il ne s'est jamais posé, ça n'est jamais venu à son esprit de dire « Je vais perdre la royauté, c'est la pire décision de ma vie. » Et pourtant, ça l'était. Et combien de fois dans nos vies, lorsque vient tout cet abattement, ce moment-là de submersion où on pose un geste rapide, et des fois qui n'est pas le bon, et des fois qu'il y a des conséquences néfastes pour nos vies ou pour la vie de quelqu'un d'autre autour de nous. Parce qu'on ne réfléchit pas, qu'est-ce que l'impact que ça aura dans le futur? Wendell Berry a dit, tout ce que nous pouvons faire pour nous préparer correctement pour demain, c'est de poser les bonnes actions aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à faire. Mon futur se prépare aujourd'hui. Dans Ésaïe 43, Dieu parle à son peuple, à compter du verset 22, ça dit, « Ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Jacob, oui, tu t'es fatigué de moi. Israël, tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu ne m'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi et tu n'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as fait seulement, tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. » Dieu arrive au peuple et dit, tu t'es fatigué de moi. Tu n'as pas fait appel à moi. Tu as essayé de tout régler. Et ça, l'histoire de Saül, c'est le reflet de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. De ne pas faire, de juste dire, « Ouais, Seigneur, on a besoin de toi. » Puis le lendemain, on fait le contraire. De désobéir, de ne pas faire le futur. Et pas juste pour mon futur, mais le futur de la génération qui s'en vient. Et ici Dieu il dit, tu n'as pas fait appel à moi, tu t'es fatigué, tu ne m'as pas offert. Il dit, je ne t'ai pas tanné pour que tu me fasses des sacrifices et des holocaustes. Je ne t'ai pas fatigué avec ça. Mais d'emblée, toi-même, tu n'as pas vu ça. Tu n'es pas venu vers moi pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et par-dessus, Dieu dit, viens confesser ton péché, viens confesser ta faute, ton manque. Il dit, on va plaider ensemble parce que c'est moi qui pardonne tes fautes. Dans nos vies, peut-être qu'on s'est fatigué de Dieu. On voit la vague arriver, on voit la pression, on voit les inquiétudes, on voit le stress, on voit toutes ces choses-là, puis on agit pas mal plus comme Saül que comme l'aveugle. On ne crie pas, on ne va pas vers Dieu, voici, tu es ma solution. On est des fois notre propre solution. Et on s'est fatigué de Dieu, on n'a pas fait appel à lui. Plus loin, au chapitre 55, c'est-à-dire rechercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne à pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies. Et mes pensées, bien au-dessus de vos pensées. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, pendant qu'il est prêt. Cherche l'Éternel. Et souvent, quand rien qu'arrive, ce n'est pas Dieu qu'on cherche. On cherche une solution et des fois, on ne la cherche pas nécessairement Dieu. Des fois, on est comme Saül puis on dit, « Non, Seigneur, tu tardes à venir. Fait que je vais m'en occuper moi-même. » Mais le truc qui est révélateur ici, ça dit, il nous dit, « Toi, là, juste te dire, tes pensées, ce n'est pas mes pensées. Tes voix, ce n'est pas mes voix. » Et souvent, quand on prend une décision à la sauvette, quand on fait « Oui, go! Hein? » C'est avec notre regard, avec nos pensées. Et malheureusement, on fait comme Saül. Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme « Ouais, je suis capable de le faire, le sacrifice. Fine, Dieu va l'accepter aussi, ça va être bien parfait. Dieu pense comme moi. Right? » C'est ça que Saül a fait. Il dit « Dieu pense comme moi, en fait. C'est correct. Qu'est-ce que j'ai fait? » Mais tu n'as pas fait ce que Dieu t'avait demandé. C'était pas ça le plan. C'était pas à toi. Et trop souvent, quand on dit, ben, Seigneur, tu tardes, puis tout ça, ben, ah, ça doit être la bonne affaire. Et puis là, clic, clac, on prend une décision rapide, on quick fix, on met le plaster, puis on dit, c'est la pensée de Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas toujours la pensée de Dieu. Capter ma pensée pour dire, hey, c'est non. Plus loin, au verset 10 d'Ésaïe 55, ça dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, rempli la mission que je lui ai confiée. Si Dieu dit, ma parole, si je dis, ça va s'accomplir. Mais rappelle-toi que mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Il dit, dans la même façon que la pluie tombe, que la neige tombe, ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé, fait germer les plantes. Mais le truc qu'on oublie, quand la vague arrive, quand on se sent comme l'apôtre Paul submergé, c'est que nous autres, c'est comme si le temps s'arrête, c'est maintenant. Mais si l'analogie qui est dans Isaïe, c'est mais regarde la neige qui tombe, je sais que c'est pas une bonne journée pour parler de neige, la pluie qui tombe, qu'est-ce qu'elle produit? Elle arrose le sol et elle aide à faire germer les plantes et les fleurs qui vont finir par pousser. Quand il pleut, j'ai semé. La plante n'est pas poussée le lendemain. Ça prend du temps. C'est pour ça que Dieu dit, attention, mes pensées, mes voix, c'est pas, mais sache une chose, il y a une assurance. Ma parole ne revient pas à moi sans qu'elle ait produit quelque chose. C'est ça que Dieu dit. C'est que si tu choisis de me faire confiance, il va se passer quelque chose. Parce que ma parole apporte du changement. Ma parole apporte de la transformation. Ma parole peut complètement revirer des situations. Et aujourd'hui, tu agis dans la panique avec un plaster. Mais fais pas comme Saül. Attends que je vienne. Et en fait, aujourd'hui, Jésus nous pose cette même question qu'il a posée à Bartimée. Et souvent, quand on est dans la panique, dans le moment de pression, quand la vague arrive, premièrement, c'est rare qu'on voit Jésus. Et deuxièmement, on ne l'écoute pas. Et si on allait à Jésus comme Bartimée est allé à Jésus, il nous pose, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une grande question, ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? Au milieu des vents, des marées, tout ça, de la pression, Jésus te pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? fatigue-toi pas de moi, viens, réponds. Prends le temps de réfléchir, de dire, qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que vraiment je veux que tu fasses pour moi? Qu'est-ce qui est au top de ma bucket list? C'est ça. Je vais le confesser. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Comment est-ce qu'on va faire ce matin? On va tous se lever ensemble. Et pendant que les musiciens nous conduisent dans un chant, Jésus te pose cette question. À toi personnellement. Chacun de nous n'aura pas la même réponse. Parce qu'on ne vit pas la même chose. Mais la beauté de ça, c'est que Jésus ne choisit pas quelqu'un. La meilleure réponse. Mais Jésus est là pour toi. Pour toi. Pour toi. Et pour toi. Mais il te pose la question. Il nous pose à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Prenons juste quelques instants ce matin dans sa présence pour répondre à cette question.